Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie, bienvenue à toutes et à tous pour commenter cette actualité. Eh bien, je suis toujours en compagnie des mêmes, Jean-François Mignard de la Ligue des Droits de l'Homme. Si, je vois qu'il hoche la tête, de la Ligue des Droits de l'Homme, toujours. Pierre Larouille, économiste, essayiste et qui a plein d'autres qualités, mais pour ménager... pour ménager sa modestie, nous ne les énumérerons pas. Notre camarade franco-colombienne n'est pas là aujourd'hui parce que...
Manquons de chef de projet.
Voilà, notre chef de projet est en train d'enseigner à ses étudiants, mais par contre, nous avons en duplex de Moscou notre correspondante habituelle, Vika Nikolaeva, que vous connaissez déjà et que je remercie tout spécialement d'être avec nous. Bonjour Vika.
Bonjour tout le monde.
Voilà, il y aura peut-être un léger décalage et quelques bruits de fond, mais bon, voilà, c'est la beauté du direct, comme l'on dit. Alors aujourd'hui, en sommaire, eh bien, nous allons parler de la Russie, puisque Vika est avec nous. Nous parlerons de la COP26, nous parlerons des médias et Bolloré en nous posant la question de savoir si cet homme est une menace pour la démocratie. Alors, poser la question, c'est presque y répondre. Voilà, c'est ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Tiens, une citation pour commencer, puis ce sera en forme de devinette, je vous demanderai qui c'est qui l'a dit. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui commandent un monde qui se transforme pour des raisons qu'ils ignorent. C'est de... Bon, il n'y a pas de prix à la clé, je regarde autour de moi dans le studio. Non, il n'y a pas de chausse-trappe.
J'ai une seule certitude.
Oui.
C'est que ce n'est pas de moi.
Oui, c'est déjà bien. Ça aurait pu. C'est le philosophe Michel Serres qui nous a quittés. Voilà, tomber sur cette phrase, j'ai dit tiens, elle est pas mal pour démarrer notre émission. Alors commençons avec Vika par la situation en Russie. Alors je vous livre, pour illustrer un peu et circonscrire le propos, je vous livre quelques titres d'articles du Monde. Vous allez voir, des photos dénudées ou simulant des actes sexuels devant des églises donnent lieu à des poursuites pénales, épousant le discours ultra-conservateur de plus en plus ouvertement promu par Vladimir Poutine. Développement agricole, nouvelles routes maritimes, le fantasme de bénéfices possibles pour le pays entretient l'attentisme russe face au réchauffement climatique et l'annonce récente d'un objectif de neutralité carbone en 2060 suscite le scepticisme. Covid dans le monde, Moscou s'isole à nouveau, la Russie veut éviter un reconfinement national. À partir de jeudi, tous les services jugés non essentiels sont fermés pour au moins 10 jours dans la capitale russe. Le gouvernement ne veut pas étendre ses mesures à tout le pays et compte sur une période chômée pour endiguer le pays. Une citation du bras droit de l'opposant Alexis Navalny, M. Leonid Volkov, qui dit la Russie est le plus grand exportateur de corruption et il exhorte les pays occidentaux à comprendre enfin que Vladimir Poutine considérera n'importe quel signe d'apaisement comme un signe de faiblesse. La chancelière allemande Angela Merkel et l'Union européenne doivent se rendre à l'évidence. L'affaire Navalny et l'attitude du pouvoir russe exigent une politique plus claire des Européens et notamment l'arrêt des travaux du gazoduc. Vous savez, le fameux gazoduc, on a eu Nord Stream 1 qui a démarré, les travaux ont démarré fin 2005 et ça s'est terminé en 2011. Et les travaux du gazoduc Nord Stream, c'est trop compliqué à dire, 2, destinés à doubler la capacité de transport du premier qui ont commencé en avril 2018, interrompus en 2019 du fait de l'opposition et des sanctions des États-Unis, mais qui se sont terminés en septembre 21. Alors c'est vrai qu'à la lecture de cette accumulation, on a un peu l'impression que quand on parle de la Russie dans notre beau pays, mais plus généralement en Europe, tout ce qui vient est assez négatif. Voilà, donc peut-être que Vika peut commenter un peu tout cela et nous donner, elle, le point de vue des Russes.
Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, mais je ne peux pas parler de tous les Russes parce que, en fait, je peux uniquement parler de moi et de mes sentiments, de ce que je vis. Parce que, en fait, les Russes sont plutôt les gens qui profitent du moment, de ce qui leur est donné. Donc, et en fait, on n'a pas vraiment l'habitude de penser à l'avenir. C'est pour ça que maintenant, on est en vacances. Le gouvernement nous a donné des vacances supplémentaires. Mais en fait, c'est pas vraiment ça parce que pas mal de choses sont ouvertes dans les régions de la Russie. Par contre, à la capitale, tout est fermé. C'est pour ça que beaucoup de Moscovites sont partis en région dans notre...
Ah, nous vous avons perdu là. Nous vous avons perdu. C'est ça, c'est les joies du...
Puisqu'on a des vacances supplémentaires, donc on en profite, je veux dire, les habitants de Moscou profitent pour partir, pour voyager avec leurs enfants, puisqu'ils sont en vacances et... Personnes sont en congé, alors les adultes. Donc, mais en fait, les articles, les titres d'articles que vous avez évoqués, c'est pas vraiment les mêmes titres que nous retrouvons ici, parce que la presse est devenue très pro-gouvernement. On a toujours les choses positives, par exemple, quand vous parlez d'arrêter. L'empreinte carbone chez nous, plutôt, c'est les titres positifs, qu'on va le faire, qu'on va absolument atteindre de minimiser l'empreinte carbone à 2030, etc. Donc, on retrouve plutôt la même stylistique qu'à l'époque soviétique, quand on faisait des exploits au travail, etc. Donc, on a un peu ça. C'est la presse officielle. Mais en fait, je pense que peu de monde lit la presse officielle. Beaucoup de gens se centrent surtout sur la presse, sur Internet, les blogs, la blogosphère, etc. Parce que, en fait, tout ce qui était avant l'opinion indépendante, maintenant, est sous. Est devenu agent étranger. Donc. Les Novaya Gazeta ou autres éditions qui avant pouvaient s'exprimer librement et donner une opinion différente de celle de l'État, maintenant ce sont des agents étrangers, alors du coup ils fonctionnent moins bien qu'avant parce qu'ils n'ont pas de financement. Et donc, partout, à la radio, à la télévision, on n'a que la seule opinion, celle de l'État, celle du gouvernement. Alors, c'est ça ce qui se passe, en fait.
En miroir, peut-être ce qui est intéressant, c'est quelle image de l'Occident donnent les médias officiels russes. On a vu que chez nous, la Russie est présentée de manière négative. Que disent les médias officiels de l'Occident, de la France ?
Mais c'est la réverbération directe. On a l'image négative du monde occident. Il ne faut pas y aller. C'est pour ça que tout le monde doit se reposer en Russie, choisir Sochi ou Yalta, la Crimée, comme destination de vacances et tout. Donc c'est pour ça que, je veux dire, à la radio, puisque je ne regarde pas la télévision, malheureusement, j'écoute la radio de temps en temps. Et alors la radio officielle, ce n'est que... la propagande de l'époque soviétique, tout ce qui est russe, c'est excellent. Tout ce qui est étranger, c'est mal vu, c'est mal pris, etc. Donc, je pense qu'un petit peu, on commence à se forger, à forger une opinion sur l'Occident, plutôt à reforger cette opinion, comme c'était avant, à l'époque soviétique. Et c'est vraiment le cas, parce que je sens cette montée d'agressivité vis-à-vis de l'Occident quand j'écoute les propos des journalistes officiels du gouvernement.
Ça veut dire que la propagande est efficace.
Exactement.
Et qu'il n'y a pas peut-être un frein. Enfin, les Russes savent aussi qu'est-ce que c'est que ce gouvernement, j'imagine, pour une grande partie. Il n'y a pas de filtre dans leur esprit. Vika.
Est-ce que la question que pose Jacques, c'est est-ce que les gens qui reçoivent cette propagande ont un recul suffisant qui leur permet de décoder et est-ce qu'il suffit, sachant que je sais que c'est toujours très compliqué de dire les Russes, parce que chaque fois pour nous on peut dire les Français, mais ce pays est un continent, quoi. Donc c'est difficile d'avoir une représentation homogène des Russes, voilà. Vika.
J'aimerais bien que c'est toi, Jean-François, qui me redise la question, parce que je n'entends que toi, en fait. Il est très difficile de savoir ce que pensent les gens. Moi, je peux dire seulement ce qu'ils pensent les gens autour de moi, un peu, en fait, parce que. Déjà, on n'a pas cette culture politique de lire les nouvelles et de comprendre ce qu'il y a derrière les lignes. Donc, on ne sait pas distinguer le vrai du faux. C'est pour ça qu'il y a autant de fake news qui circulent sur Internet. Et en fait, c'est ça l'instrument de la propagande dans la presse, dans le journalisme. Donc, on t'enrobe un bon fait véridique dans un mensonge, etc. Donc, tu ne sais pas distinguer. En fait, c'est ça la question, si je comprends bien.
Oui, c'est celle-là la question, oui. C'est tout à fait.
Exactement. C'est pour ça que c'est un peu difficile de voir l'opinion des gens, parce que je pense que le monde est fatigué d'entendre les mensonges et a arrêté d'écouter et de lire. On ne lit que ses journalistes préférés, on n'écoute que ces blogueurs auxquels on s'intéressait toujours. Donc, c'est ça. On ne regarde pas vraiment la télévision politique, ni les émissions de radio politique. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de mensonges un peu. C'est la même chose avec le Covid. Parce qu'on ne sait pas si on nous dit la vérité ou si on nous ment. C'est pour ça que les gens ont peur de se faire vacciner, d'avoir le pass sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils achètent ces pass sanitaires. Au lieu de se faire vacciner, parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas à la médecine, au progrès, donc ils sont suspects à tout ce qui se passe.
Est-ce qu'on nous a déjà suffisamment menti
sur le Covid ? Est-ce qu'on a des chiffres concernant les vaccinations ? Est-ce qu'il y a des chiffres qui circulent en Russie sur aussi les cas de Covid, les décès ? Parce que nous, on a aussi de l'information et on est toujours un peu circonspect. Est-ce que vous avez de l'info là-dessus ? Et est-ce qu'elle est, d'après vous, est-ce qu'elle est fiable ?
Je ne sais pas si elle est fiable ou pas, mais les chiffres coïncident avec ce que vous avez. C'est exactement les mêmes chiffres. À peu près hier, c'était à peu près 5 000 personnes à Moscou qui ont été contaminées. Donc la quantité de morts augmente, plus de 100 personnes par jour maintenant, sur toute la Russie. Donc beaucoup de malades. Quand il y a les ambulances qui viennent voir les vieux malades, donc les docteurs, les médecins proposent eux-mêmes de ne pas transporter les malades dans les hôpitaux parce qu'ils disent que ça va être un billet sans retour, un billet, un aller simple, quoi. Parce que tous les hôpitaux sont remplis de malades et en fait, il n'y a aucun soin. Donc, parce que en fait, on manque de personnel médical. C'est ce que je comprends de la situation. Heureusement, dans ma famille, personne n'a été malade. Donc, on a une seule personne qui s'est fait vacciner sous la pression de la directrice de son école, parce que j'ai ma belle-sœur qui est professeure de français dans une école de Moscou, dans un collège et un lycée plutôt. Euh, donc, Donc elle s'est fait vacciner, mais pas de Spoutnik, un autre vaccin plus, plus léger, on va dire moins actif que Spoutnik. Moi, j'hésite parce que déjà, j'aimerais bien me faire vacciner si Spoutnik est reconnu à l'étranger, parce que pour moi, le vaccin me permettra de me déplacer librement en Europe. Donc, c'est ça ce que je veux. C'est pour ça que j'attends la décision de l'Organisation mondiale de la santé sur Spoutnik. Mais en fait, tout le monde dit que quand tu viens te faire vacciner, tu signes un papier qui dit que tu donnes un accord, toi-même tu es d'accord avec ça, parce que c'est pas vraiment un vaccin confirmé, mais ce n'est que des essais médicaux encore hein, avec le vaccin.
D'accord. Et Pierre,
donc, signes un papier que tu prends toute la responsabilité sur toi.
D'accord,
en fait.
D'accord. Pierre voulait poser une question.
Oui, non. Au demeurant, là, c'était pas sur la Covid, mais si c'est vraiment 100 morts par jour, j'ai envie de dire, c'est relatif, mais c'est pas énorme hein, sur la Russie, parce que 30 000 morts par an, tous les pays qui ont été en crise connaissent ça de manière. Donc ce n'est pas plus massif qu'ailleurs si c'est ça le chiffre. Apparemment, ça paraît beaucoup plus, mais je n'en sais absolument rien, donc j'en reste là. Je reste simplement. On a une discussion qui est. Tout le temps, effectivement, sur le fait qu'il n'y a aucune crédibilité sur les propos de Poutine, etc. Mais enfin, de temps en temps, il y a des choses très concrètes. Hein. Il y a 15 jours...
Pierre termine sa question.
Il y a 15 jours, quand on est en pleine crise de l'énergie, et c'est pas négligeable, parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent bien les règles qui sont derrière la crise de l'énergie. Vous savez, par exemple, que les gens qui vendent du gaz, c'est notamment le cas de beaucoup de très grandes entreprises ou institutions françaises, qui vont vendre ce gaz dans 2 ans, sont obligés de se couvrir. Or, tous les gens qui ont fait de la prospective avaient donné un chiffre maximum qui a été plus que doublé. Ça veut dire que par rapport aux trésoreries qui étaient prévues dans ces entreprises, elles sont obligées de sortir des centaines de millions d'euros et beaucoup ne les ont pas. Et on est devant une crise dont je vois que personne n'en parle, mais c'est quand même très intéressant. Par exemple, la Caisse des dépôts est obligée de débourser 800 millions d'euros. Ce qui en trésorerie n'est pas négligeable. Hein. Tout le monde ne peut pas le sortir. Et je sais qu'il existe déjà en Grande-Bretagne des problèmes dans des grandes sociétés. À cet instant-là, Poutine a fait une seule chose. Il a fait un commentaire, où il a communiqué plus exactement. En l'espace d'une demi-journée, ça a fait baisser l'augmentation de 20%. Donc en tout cas, en dehors de tout ce qu'il raconte et on sait qui il est, il a visiblement une opportunité stratégique extrêmement puissante, parce que ça m'étonnerait qu'il ait fait se communiquer sans contrepartie. Donc il faut quand même mesurer qu'il est aussi, en dehors de tout cet enfumage, un personnage qui prend une place très importante au plan stratégique face à la crise de l'énergie qui ne fait que commencer et sur laquelle, je crois, son poids va être très déterminant.
Oui, enfin, il faudra le relativiser en ce que la Russie est en pleine déplétion du pétrole et du gaz aussi. Donc, et ils nous en fournissent 40%. Hein.
Des réactions, Vika, depuis là-bas, depuis Moscou?
J'aimerais bien dire ma propre opinion là-dessus, parce que je suis d'accord avec vous, Pierre, que quand il y a donc Monsieur Poutine qui intervient à tort et à travers, donc tout le monde obéit, tout le monde fait. On est bien d'accord, on est très obéissant en Russie. Nous, on est un petit peu chinois là-dessus. Mais vous savez que, à mon avis, le rôle du président est un peu autre. Il doit donner les ordres et tout le système doit fonctionner, n'est-ce pas? Et donc le premier ministre doit être responsable d'un secteur, les autres ministres d'autres secteurs, etc. C'est pas à Poutine de régler tous les problèmes qui existent. Et quand il y a les vieilles dames qui s'adressent à lui en disant que notre retraite est insuffisante pour vivre, et lui, il donne cet ordre de régler la situation, à mon avis, c'est un petit peu insensé ce qui se passe. Donc, il y a une seule personne en Russie qui décide, et les autres ne
font
rien.
On a la même chose en France, hein, je vous rassure.
Voilà, exactement. Donc, Donc pour moi, l'image de Poutine, oui, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, qui fait des choses bien ou des choses mal, mais il sait prendre les décisions, il sait décider. Par exemple, en ce qui concerne le tri des ordures, il a fait construire, il a donné l'ordre de faire construire près de Moscou 4 usines, 4 déchetteries, 4 grandes déchetteries pour régler le problème des ordures dont nous sommes ensevelis. Donc il fait les choses, il participe, il essaie, mais à une seule personne, c'est pas suffisant. Son rôle, à mon avis, de faire marcher toute la machine de l'État et pas donner des ordres à tel ou tel personnage. Donc lui, il doit dire que la roue tourne et les autres doivent travailler ensemble. Et pour l'instant, on est un petit peu comme... personne ne travaille sans son ordre, en fait.
On va arrêter là. Juste une dernière question, peut-être. Est-ce que vous avez des nouvelles de M. Navalny?
La dernière nouvelle datée d'il y a quelques semaines, qu'il a encore eu une nouvelle remarque sous son affaire Yves Rocher. Donc il a été convoqué, pas en personne, mais en distanciel, on va dire, sous son procès de Yves Rocher, ou rien, pour l'instant rien. Je sais que ces partisans partent beaucoup de la Russie parce qu'ils ne peuvent plus travailler normalement, et ils sont tous à la recherche de la police, si on peut le dire comme ça, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, donc alors tout le monde est parti.
D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que l'affaire Yves Rocher et Navalny, c'est que la maison Yves Rocher a été incitée à porter plainte contre Navalny pour une affaire qui n'était absolument pas claire, qui peut paraître quand même être un prétexte, mais qui permet d'extérioriser les plaintes contre Navalny et donc de faire qu'il paraisse moins victime du pouvoir russe. Voilà. Merci pour...
Merci Vika, je ne sais pas si vous m'entendez vraiment. Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous, et puis attention au Covid, mettez les masques, comme dirait, et puis lavez-vous les mains, comme dirait notre président de la République. À bientôt Vika.
Merci beaucoup, je n'y manquerai pas, à bientôt, merci.
Dasvidaniya.
Voilà, vous voyez, il y en a qui parlent russe autour de nous, c'est quand même un avantage. Alors merci, grand merci à Vika. Je vous propose de passer au sujet numéro 2 qui était celui de la COP26 qui est un peu, qu'il serait difficile de ne pas évoquer ici. Alors quelques remarques des uns et des autres. Monsieur Guterres par exemple, vous savez qui c'est? C'est le secrétaire général de l'ONU qui nous dit « Le monde doit agir maintenant pour sauver l'humanité des impacts catastrophiques du réchauffement climatique ». Il est temps de dire assez, a-t-il rajouté. Monsieur Boris Johnson, qui n'est pas toujours très fiable dans ce qu'il dit, dont il faut grandement se méfier, mais là, que dit-il? Il dit « L'humanité a longtemps joué sur la montre sur le climat, il est minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse, nous devons agir maintenant ». Le président français Emmanuel Macron, de son côté, a rappelé que les plus gros émetteurs de gaz, il a appelé les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à rehausser leurs ambitions dans les 15 jours de la COP26 pour recrédibiliser notre stratégie. Monsieur Biden également, qui est allé de la sienne, agir contre le changement climatique est un impératif moral et économique. L'Indien, M. Modi, M-O-D-I, hein, je précise, parce qu'il est aussi maudit par beaucoup de ses concitoyens d'ailleurs, qui a dit « D'ici à 2070, l'Inde atteindra l'objectif de zéro émission nette ». Disons-le tout de suite, ils n'en prennent pas le chemin. Et puis 2070, c'est quand même très loin. Et la Queen, la Queen Elisabeth II, qui...
Bien entendu,
je précise, mais vous aviez tous compris, qui a exhorté les dirigeants mondiaux à s'attaquer au changement climatique. Et je la capacité à résoudre les problèmes les plus insurmontables. Cette COP est l'une des rares occasions où chacun aura la possibilité de s'élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d'un véritable sens politique. L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis.
Le pape n'a rien dit encore.
Le pape n'a encore rien dit, mais il a quand même écrit une encyclique qui est extrêmement intéressante, qui est un outil pédagogique et qu'il faut saluer cette initiative. Je pense qu'on devrait la lire, alors je ne sais pas si on la lit dans les églises, je ne fréquente pas assez pour le savoir, mais il a fait là-dessus un gros travail et je pense qu'il l'a fait avec un de nos éminents français qui s'appelle Gaël Giraud et qui est un jésuite et qui a beaucoup participé à l'écriture de cette encyclique. Alors sur cette question, Pierre Larouille.
Il y aurait beaucoup à dire, puis on ne fait que commencer. Là, on apprend par exemple que finalement 2021 a fait plus que compenser la période de confinement de 2020, dont l'activité bat son plein. On voit aussi qu'en quelques jours de crise énergétique, tout le monde a compris que tout ce que l'on racontait il y a quelques temps sur le nucléaire ou autre a été jeté à la poubelle et que plus personne même n'ose lever le doigt pour aller contre une logique nucléaire en France. Moi, je suis toujours convaincu de deux choses. La première, c'est que dans un système capitaliste, libéral, mondialisé comme nous l'avons, tant qu'il n'y aura pas un véritable modèle économique de substitution basé sur la transformation écologique, il n'y aura pas de grandes décisions politiques. Or, visiblement, cette chose-là n'est pas prête, elle commence, mais on peut peut-être considérer, c'est ce que disait notre ami Bernard Maris, il disait que ça ne fonctionnera que le jour où l'économie verte deviendrait le nouveau fordisme. Et je pense qu'on en est là, parce que visiblement, on ne s'est pas encore attaqué complètement à la logique des comportements et du nouveau modèle économique. On n'a pas créé les outils d'action publique de transformation de ces comportements. Au contraire, on ne suscite que des clivages. Et d'ailleurs, on en a une preuve sous les yeux, c'est la présidentielle 2022. Vous voyez bien qu'à quelque temps, on avait un casting où les écologistes allaient vraiment tout emporter. On voit qu'ils sont très fragilisés.
Mais est-ce que l'environnement n'est pas une chose trop sérieuse pour être confié aux écologistes,
plagier une politique.
Aux politiques.
Le problème, c'est que ceux qui parlent le plus d'écologie, à eux tous, ne font quand même pas beaucoup. Donc c'est assez préoccupant. Donc là, on a un ensemble, ce qui est, je crois qu'on ne peut pas nier que la COP sert quand même de cadre, qu'il y a quand même un référent, qu'il y a des choses qui se passent au niveau diplomatique, qu'il y a des tendances qui naissent. Mais je crois que ça passera vraiment par ces deux choses qui sont, est-ce qu'on invente le modèle économique et de production de demain, et est-ce que du coup il est capable de se substituer aux logiques de profit contemporaines, parce que sinon, eh bien chacun aura le temps d'attendre.
Et dernière question, avant de passer la parole à François Mire, est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça avant que tout s'écroule, Jean-François ?
Je suis surpris de la véhémence des propos de Pierre, que je partage complètement, effectivement.
Partageons tous ici.
Oui. Je suis agréablement surpris, et puis bon, parce que je suis assez désespéré, je dois avouer, sur cette thématique-là. Bon, je suis pas trop névrotique d'habitude, je suis pas. C'est quand même une sacrée pantalonnade. Je veux dire, j'ai l'impression d'assister à la énième tournée des Augustes et des clowns blancs sur la scène médiatique internationale qui en arrivait même à jeter pour certains. Alors, pour le coup d'avant, là, je parle du des pièces dans les...
Dans la fontaine de Trévise,
dans
oui.
Dans la fontaine de Trévise, pour qu'ils aient de la chance, pour qu'effectivement, on sauve le climat et tout. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là qui feraient qu'il faudrait maintenant diviniser et marabouter les décisions politiques pour qu'on aille éviter d'aller dans le mur dans lequel on va en klaxonnant et en regardant ailleurs. Poutine qui envoie les vidéos, la Chine
qui n'est pas présente,
les Africains et les pays dits... qu'on disait avant en développement, en voie de développement, qui essaye d'éviter de payer une note qui n'est pas la leur, mais qui est la nôtre, à la fois en différé dans le temps et dans l'espace. J'avais déjà beaucoup de mal à le faire, mais là, je n'arrive plus à prendre au sérieux. Effectivement, ce qui est en train de se passer, la main sur le cœur, bien sûr qu'on va s'amender. La question, je suis alors au risque d'apparaître pour le coup archéo-marxiste, je pense effectivement qu'il en va de quelque chose de l'ordre d'un modèle économique différent, d'un système de production différent, et qui a, je partage aussi l'avis de Pierre, alors peut-être que si on allait dans le détail, on verrait des nuances, qui est que le monde politique, je vais utiliser un mot qui est un mot dont je me méfie comme la peste, qui est le système politique. Le système, c'est un truc qui passe partout. Mais l'organisation politique que nous avons, les relais, les manières de penser les décisions publiques, la démocratie, de se faire entendre et d'avoir des actes en cohérence avec ça, est complètement décalé par rapport à l'enjeu. C'est vraiment l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une espèce de théâtre d'ombre. On rassure, on s'engage. Mais
on ne tient pas derrière, quand même.
Mais peut-on tenir, y compris quand on sait qu'il y a un tel déphasage, pour le coup, entre les gens qui sont dans les lieux de décision politique et les gens qui sont dans les lieux de décision réels, pour le coup.
Le problème, c'est que les politiques, techniquement, ne connaissent à peu près rien sur ces questions, pas plus que sur la déplétion des matières premières ou sur la pollution.
Et que les gens qui connaissent certainement et qui sont aux manettes des vraies décisions s'assoient dessus parce que, de toute façon, ce n'est pas dans leur intérêt. À partir de là, on va effectivement...
Ça me rappelle un petit dessin que j'ai vu ce matin, posté par un certain Mignard Jean-François.
Oui, il paraît que... Je lui dirai si... Oui, bien sûr, c'est...
Pendant qu'on cause à Glasgow, les affaires continuent et reprennent de plus belle. Pierre l'a dit tout à l'heure, on revient au niveau que l'on a connu avant le Covid.
Oui, et alors c'est moi je dois avouer que c'est on mesure bien le décalage quand même qu'il y a entre ce cirque-là et la réalité de l'inquiétude portée entre autres par une bonne partie des nouvelles générations. Qui sont présents d'ailleurs, mais qui sont présents en off, comme on dit, dans les festivals. Et en l'occurrence, ça en est un de la pire espèce. Et moi, autour de moi, je vois plein de gens, et notamment des jeunes, mais pas que, des gens aussi de ma génération. Je suis plus du tout de la première génération.
Mais non, ne faites pas du mal, Jean-François.
Ça ne me martyrise en rien. Et je suis là aussi, on en parlera peut-être quand on évoquera aussi la question de la presse, assez étonné entre le barouf qu'il y a médiatique sur lequel on va ensuite tourner la page dans 3 mois. Heureusement qu'on va retrouver les présidentielles derrière, ça va nous animer un peu les plateaux télé, mais... Et la réalité de ce que vivent, comme on disait à Canal+, les vrais gens. Il y a une réelle inquiétude de ce point de vue-là, de la part d'un certain nombre d'une partie de notre population. Et pour le coup, là maintenant, pas uniquement que les bobos qui trient comme il faut leurs déchets et qui utilisent les circuits courts.
D'abord, merci à Mignard de rappeler les vrais gens, mais ça ne vient pas de Canal.
Oui, je crois que ça vient de quelqu'un d'autre. Hein.
J'ai beaucoup participé avec Pilan sur la sortie des vrais gens. Peu importe, ce n'était pas le sujet. Non, ce qu'il y a d'intéressant, je conforte ce que dit Mignard, c'est qu'il y a aussi un problème parallèle, c'est qu'on voit dans les attentes de l'opinion cette injonction contradictoire de le climat d'un côté et le pouvoir d'achat de l'autre. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est l'impuissance à porter ce message, à le défendre, à mobiliser quoi que ce soit, parce que ça, c'est une grande crise du politique, certes, mais en fait, c'est une crise de la citoyenneté par rapport au discours politique. C'est comme cette formulation quand même très individualiste, très... pas de mal, des ONG, enfin, cet esprit-là... Même si l'intérêt se heurte aujourd'hui à ce problème, c'est qu'un discours politique, c'est un discours politique, dans lequel un intérêt général dépasse les émotions individuelles pour porter des véritables projets et commence à peser. Et réellement, la société pourrait peser plus, sans doute, sur ce sujet. On n'a pas l'impression. C'est pas Greta Thunberg et quelques manifestations de lycéens qui, pour l'instant, transforment beaucoup les choses.
Jean-François.
Oui, c'est certainement avec moi, je suis pas fan des mascottes des mouvements altermondialistes, mais c'est je préfère ces mascottes-là qu'un certain nombre d'autres. Mais c'est une crise de la citoyenneté. Oui, c'est aussi une crise du politique, parce que pour le coup, individuellement, on voit bouger les choses. C'est-à-dire que les gens ont des pratiques, individuellement je parle, et à l'échelle de petits collectifs, des pratiques qui sont des pratiques alternatives du modèle qui est du modèle dominant. La question n'est pas tant du côté des gens qui n'arrivent pas à se faire entendre que de la question de la mise en forme de ces pratiques-là et de ces pensées-là à une échelle qui est une échelle collective. Ces gens-là ne pensent pas... Enfin, si l'hypothèse était que c'est parce que les gens ont des comportements ou des pensées individualistes qu'ils n'arrivent pas à produire du politique, je ne suis pas sûr que ce soit réellement une hypothèse. Il me semble que la question qui se pose, c'est quel est aujourd'hui un contenant politique à inventer, un contenant collectif, qui permette effectivement de faire avancer les choses de ce point de vue-là. Parce qu'y compris les gens préoccupés sur ce genre de choses-là le pensent certes sur le versant qui est le versant individuel, qui est le versant dominant d'ailleurs, hein, aujourd'hui, mais aussi le pensent sur le versant collectif. L'interdépendance des comportements individuels pour faire à la fois du sens commun et des actions qui sont des actions communes, c'est présent aussi dans la tête des gens. Le problème, c'est que ça n'embraye pas.
Oui, mais alors, je suis un peu d'accord. Alors ça, c'est vraiment une ligne de position intéressante. C'est que, oui, il y a plein d'actions individuelles. Le problème, c'est qu'il me semble que la motivation de ces comportements individuels sont très messianiques. Et le fait qu'elle ne soit pas politique, chacun choisit sa bonne conscience de l'action. Et les mêmes personnes peuvent se comporter de manière formidable sur quelques trucs innovants et à côté ne pas se rendre compte qu'en réalité, il pollue 10 fois plus sur d'autres sujets. Donc je crois qu'il y a là une sorte de bonne conscience qui, encore une fois, permet d'éviter le débat politique. Le débat politique, c'est quand même aussi toujours renoncer dans le choix. C'est quand même se dire que s'il y a un projet politique qui fait système, on n'est pas obligé d'y trouver à chaque endroit ses petits. C'est en ça que je dis que l'individualisme est très prégnant là-dessus, parce que nous sommes dans une période où les gens sont repliés sur une vision de sublimation qu'ils ne trouvent plus ailleurs, et on a une vision de l'émotion portée au pinacle. Et d'ailleurs, je suis très intéressé par le fait que de plus en plus, on voit des ponts se faire entre quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est l'innovation sur le climat, avec le mouvement woke, donc on ne va pas débattre ici, sinon on va y passer toute l'émission. Et je sais qu'elle suscitera un consensus.
Une prochaine mais émission. On en fera d'autres.
Mais sur ce fait, hein, d'être messianique, il y a des rapprochements entre ces deux tendances. Et c'est ça qui me fait très peur. Et je maintiens qu'il faudrait quand même qu'on arrive à trouver une logique politique et d'organisation à ces comportements individuels.
Un dernier mot. C'est pas la prime à l'émotion, hein, ou c'est pas une approche qui est une approche purement messianique. Les pratiques sont aussi assorties de discours et de visions qui sont des visions, y compris extrêmement élaborées, hein, scientifiques, etc., etc., et qui sont pas dans le et qui dépassent y compris le registre qui est le registre purement de l'émotionnel ou de la mauvaise conscience, hein, c'est j'ai l'impression que il faut apprendre aux petits enfants, je caricature, à trier les ordures pour que les petits Africains ne soient pas victimes de la sécheresse au Sahel. Et derrière nous, on a maintenant une maturité du discours, alors qu'on pourrait appeler politique concernant la question qui est la question de l'écologie, mais qui est certainement pas, dans lesquels les gens ne reconnaissent pas les structures politiques actuelles pour pouvoir les reconnaître. Et quant à ce qui est du renoncement, là aussi, dans la pratique, ces gens-là ne pratiquent le renoncement, qui est un renoncement que certains leur demandent de faire plutôt dans le registre oral. Autrement dit, on a peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une alternative au sens de deux modalités de fonctionnement, deux manières de penser les choses, de penser le monde, qui ne se résument pas au fait que l'une n'est pas suffisamment aboutie pour que l'autre la prenne en compte. Peut-être qu'il y a une alternative. Ouais, et que, voilà, et que ça, c'est une question.
Je ne fais pas d'opposition avec ce que dit Mignard là-dessus. Simplement, le fait d'aller au texte et à la... Les religions amènent très souvent à aller au texte, et en général, quand on va beaucoup au texte,
c'est les religions du livre.
Ça se finit mal.
Surtout les religions du livre amènent à aller au
donc
texte.
Donc je suis très attentif au fait qu'on peut effectivement se doter de discours scientifiques, de trucs et de machins. Ça n'enlève pas ce fait qu'à un moment donné, il faut qu'on pose le problème politique du partage d'une nouvelle vision de la société.
C'est vrai.
Nous sommes tous d'accord sur ce... Sur cette question, troisième sujet, Bolloré, et la question est-il une menace pour la démocratie ? Alors, la question que je me suis posée, c'est ce que le paysage médiatique français va-t-il ressembler, toute proportion gardée quand même, à celui de l'Amérique de M. Trump ? Alors, on pourrait l'imaginer en voyant les méthodes de Vincent Bolloré et le but qu'il poursuit, à savoir le rachat massif de journaux, de radios, de télévisions, afin de mettre tous ces médias au service de son business et de sa vision si particulière du monde et de notre société, mais aussi au service d'un monsieur qui s'appelle Zemmour, c'est ça, hein, oui. Zemmour qui apparemment porte si bien les idées de son bienfaiteur, lequel lui donne un accès pour le moins privilégié aux médias de son groupe, qui se font un devoir de lui assurer... Qui se font un devoir de lui assurer une caisse de résonance considérable. Alors avant, il était chroniqueur, maintenant il est invité. On a dit qu'il ne peut plus être chroniqueur, mais il est invité.
Avant, c'était les journalistes, maintenant c'est les animateurs.
Voilà. Le tout allant même jusqu'au bidonnage de certains reportages afin d'améliorer la sauce. Je vous renvoie là-dessus au cadran enchaîné de la semaine dernière du 27 octobre. Alors, citons dans les possessions de M. Bolloré, mais il y a quand même Match, le journal du dimanche, il y a Europe 1 qui l'a vidé de sa substance, CNews, la chaîne Bolloré C8, Canal+, c'est quand même pas rien, excusez-moi du peu. Alors, chaque rachat, bien sûr, s'accompagne d'une purge des journalistes jugés indésirables ou trop critiques ou pas assez souples ou pas assez dans la ligne de l'industriel breton. Et bien sûr, tous ces professionnels sont aussitôt remplacés par du personnel aux ordres. Alors, je dis du personnel parce que ça m'ennuie un peu de les parfumer du terme de journalisme. Du personnel aux ordres.
Du petit personnel.
Du petit personnel, voilà, bien pensant, dans la ligne imposée par Bolloré, c'est-à-dire, pour faire simple et peut-être un peu caricatural, une ligne extrêmement droitière. Le CSA, là-dedans, que fait-il, allez-vous me dire ? Il est quand même totalement incapable d'imposer même un semblant de pluralisme. Alors, il émet quelques mises en garde, mais enfin qui n'ont strictement aucun effet. Monsieur Bolloré, longtemps boudé par l'Élysée, c'est quand même le premier actionnaire de Vivendi, a rencontré le président de la République, quelqu'un qui s'est entremis, on a dîné ensemble, et puis finalement ça n'a pas réussi à apaiser la discorde entre les deux hommes, et notamment on s'est opposé sur la tonalité conservatrice, je suis dans l'euphémisme, de CNews. Liberté de la presse, indépendance, pluralité, c'est les trois garants de celui que l'on appelait le quatrième pouvoir. Donc le paysage des médias français, vous le comprenez, est devenu bien sombre et inquiétant. Notre démocratie en prend un coup et poursuit son lent délitement. Je pousse un cri, Montesquieu au secours. Pierre.
Et ça, c'est vraiment un sujet intéressant et
merci
complexe.
Merci pour les autres.
Non, les autres, c'était...
Ils étaient bien aussi, les autres.
Étaient bien aussi. Parce qu'on est en train de se poser une question comme si elle était nouvelle, et donc on peut se poser la question de est-ce que c'est nouveau ? Parce qu'en fait, que des politiques se servent des médias, l'histoire...
C'est pas un scoop, ça fait.
C'est pas un scoop, Berlusconi, truc... Ce qu'il y a d'extrêmement nouveau, me semble-t-il... C'est que jusqu'à présent, des politiques se servaient des médias. Aujourd'hui, nous avons un modèle qui est en train de se mettre en place et qui croise fondamentalement l'information avec la finance. C'est structurel. Les GAFA, c'est ça. Et vous voyez que le problème de Bolloré est bien le même problème que les GAFAM, qui est que subitement, ces gens se sentent investis de quelque chose qui est qu'ils deviennent la nouvelle voix OIE, non, OCOX, de comment il faudrait maintenant penser cette société complexe qu'ils participent à mettre en place. Et globalement, tous ces gens sont quand même convaincus que tous les discours précédents sont dépassés et qu'ils ont un rôle à jouer. Et ils ont chacun leur mode éthique pour le raconter. Mais en tout cas, ils sont persuadés que c'est à eux de produire la nouvelle parole. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Bolloré, c'est pas seulement qu'il s'en sert, parce que dans le fond, il veut pas devenir président de la République. Et Dubysens, il en fait déjà. Et peut-être d'ailleurs qu'il en ferait mieux s'il ne poussait pas trop le mémé dans les orties. Donc il y a là une question qui est très fondamentale, c'est est-ce que la société numérique et des réseaux sociaux est en train de produire une génération d'entrepreneurs, d'industriels, de financiers, appelez-les comme vous voulez, qui enfin vont s'emparer de l'éthique et du discours politique mondial. Avec versus, il y a un deuxième côté de la pièce, Bolloré, il peut être au contraire très régressif, et la présence de Zemmour le montre, c'est qu'il y a toujours, chez certains patrons, il en fait partie, un axe de l'arc ouest. J'appelle ça l'arc des chouans. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre...
On va avoir des problèmes avec les Bretons et les Vendéens encore.
Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore renoncé à se venger.
De la gueuse.
De la gueuse. Et donc je me demande si la démarche de Bolloré est d'un côté ou de l'autre, parce que je pense que les deux existent. Et je crois que la présence de Zemmour, qui n'est pas sur le plan des technologies, des réseaux sociaux, quelqu'un de fondamentalement innovant, l'est par contre du côté des chouans.
Jean-François Mignard.
La réponse est oui à la question posée.
Mais quelle était la question? C'est ce que disait Woody Allen. La
réponse est oui,
mais rappelez-moi donc la question.
Voilà. La réponse, est-ce que ça représente un danger? La réponse est oui. C'est un danger qu'on voit venir quand même depuis un moment, M. Bolloré. Je veux dire, CNews, c'est quand même... c'est toujours paradoxal, c'est que ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui le regardent le moins. Je fais partie certainement des gens qui vont parler de CNews et de M. Bolloré... et qui le regardent très peu. Et
peut-être que ceux qui le regardent beaucoup sont quelque peu décérébrés, à force de le regarder.
Je ne sais pas s'ils le sont, mais je pense que si la machine fonctionne relativement bien...
Ça y concourt.
C'est la machine à décervelage tourne à plein, et que Bolloré, dans le rôle du Père Ubu, ne serait pas complètement à contre-emploi de ce point de vue. Voilà. Mais... le Zemmour, alors bon, ce que je veux dire, c'est qu'on assiste quand même, on assiste à un naufrage de toute une profession, ça a été évoqué tout à l'heure, et qui me navre, moi, qui est une bonne partie de la profession journalistique, et qui aujourd'hui, avec cette affaire-là, parmi d'autres, est en train de sombrer corps et bien, je trouve, en termes d'éthique, de fonction, des choses comme ça, c'est... pour des raisons, c'est le fameux petit personnel là, hein, qui est interchangeable, hein, journaliste, animateur, etc., etc. Mais ces chaînes là, Zemmour dans la machine à décérébrer va bien aussi avec à partir les rares fois où j'ai regardé ce genre de chaînes là. Au prime time, on a effectivement on a Zemmour, mais ensuite on a alors ces chaînes-là, CNews, mais aussi un certain nombre de chaînes privées comme ça, où on colle à une représentation quasiment dystopique d'une société. Regardez la télé le soir, vous serez directement embarqué avec la brigade anticriminalité. Des quartiers nord de Marseille, vous verrez les Marseillais se poser le cerveau à côté de la tête, parce que quand on a bien travaillé, après tout, c'est tout à fait légitime de faire à peu près tout, n'importe quoi et le reste. Il y a une...
Ça, c'est pas l'apanage des Marseillais.
Les Marseillais, les ch'tis, tout ce que vous voulez. Du communautarisme, c'est pas séparatiste, ça, au passage. Mais c'est un communautarisme, celui-là, qui va bien. Celui-là, il fait pas peur et on fait pas des lois qui sont censées le combattre, mais qu'on voit tous les jours à la télé. Bolloré, là-dedans... agite ce genre de choses-là. Je pense effectivement qu'il n'a aucune ambition politique, puisque peut-être qu'il a lui aussi deviné, je fais un peu ce qu'on disait le coup d'avant, que ce n'était pas là où ça se passait réellement.
Voilà, c'est ça. Lui, c'est, il a pas besoin de se faire élire, il manipule déjà les gens.
C'est là où ça se passe quand même le mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une représentation de la société, etc. etc. mais bon, voilà.
Il en a une, elle l'exprime assez à travers toutes ses chaînes, journaux et autres.
Oui, oui. Et tout ça se fait avec, effectivement... moi, quand j'en parle autour de moi, y compris, il se trouve... Je connais un peu à la frange le monde journalistique. Tout le monde est un peu gêné. Mmh. Je connais des gens dans le monde journalistique qui sont gênés, mais qui, somme toute, se disent « Ah, c'est quand même de la belle ouvrage, tout ça. Hein. » La société du spectacle, elle y va plein pot les manettes, de ce point de vue-là. Voilà. C'est extrêmement dangereux. Enfin, moi, je pense... et c'est en train de bouffer à peu près tout ce que ça peut bouffer collectivement, individuellement. Ça prend tout l'espace qu'on lui donne. Ça va bouffer, c'est en train de bouffer la campagne électorale dans laquelle on est en train de faire monter en flèche en première ligne quelqu'un qui ne s'est toujours pas déclaré comme étant candidat et qui d'ailleurs fait de cette chose-là quelque chose de l'ordre d'un atout politique, autrement dit, ça...
Oui, ça... il fait campagne sans le dire, mais avec nos sous quand même, parce que là, il est en train d'arroser grave, comme
voilà,
dirait les jeunes.
Et quand vous y discutez avec les gens du métier, ils vous disent, c'est de la belle ouvrage tout ça, hein, quand même, qu'est-ce que c'est bien fait ce truc-là. C'est Debord revient, moi c'est pas Montesquieu, mais Guitou, Debord revient, ils sont devenus fous quand même.
Pierre, un mot de conclusion.
Oui, je reprends quand même, parce que pour fouiller un peu plus le sujet, on a parlé de Trump, et justement, on parlait de la Russie, donc tout ça, c'est...
Oui, oui, hein, Fox
ça,
News.
Ça fait lien. Alors justement, je voulais en venir à ça, c'est est-ce que CNews, c'est la Fox française? Cette question vaut la peine d'être posée, parce que si CNews, c'est la Fox française, la Fox, c'est très précis la manière dont il fonctionne. C'est « je ne m'attaque pas à tout le marché parce qu'il est clivé que je n'aurai qu'une toute petite part. Mais par contre, je prends une part qui n'est pas traitée par les autres et celle-là, je la prends globalement. » CNews, de certaine manière, a fait émerger quelque chose, et c'est pour ça que ça a une influence terrible sur la présidentielle 2022, c'est il y a un bloc de non-dits, il y a une tradition d'extrême droite en France, il y a une tradition très réactionnaire, il y a une tradition assez raciste en France, y compris d'ailleurs des traditions religieuses un peu intégristes, et tout ça, ils l'ont globalisé très très rapidement et de manière maligne. Et ça croise visiblement des émotions individualistes, exactement comme l'a fait la Fox. Donc oui, c'est malin, oui, c'est bien foutu, et la question pour finir là-dessus et rejoindre Mignard, mais j'espère et je le soupçonne qu'il va y avoir une fronde journalistique qui a besoin de refaire son image, et que dès que Zemmour va se déclarer candidat, je sens qu'il va monter un vent de fronde extrêmement violent contre lui.
Très marrant, le vent de fronde qui démarre depuis Ouest-France.
Voilà, pour autant que Zemmour soit candidat, ce qui n'est peut-être pas encore absolument assuré, Pierre pense que oui, apparemment. Bien, comme dirait Philippe Meyer, l'heure a sonné, même largement sonné, de nos dernières rubriques. Commençons par les brèves. Alors vous avez remarqué qu'on parle parfois un peu de l'immigration actuellement.
Hein. Oui, il risque d'ailleurs d'en parler
beaucoup. Et bien, c'est peut-être un peu tout cela creux et inutile. Enfin, nous le savons. Il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Edo, qui est du CPEI, qui a fait un état des lieux du phénomène migratoire avec de très nombreux chiffres. C'est extrêmement bien renseigné. Et il ressort notamment que, comparé à ses voisins européens, la France se caractérise par un flux modéré et une part d'immigrés dans sa population qui demeure relativement modeste. Et en outre, la progression du nombre de titres de séjour délivrés en France, nous dit Anthony Edo, est actuellement tirée par l'accueil de plus en plus d'étudiants étrangers et pas d'autre chose.
C'est paru dans The Conversation.
Absolument. Il faut le dire, donnons nos sources. C'est d'ailleurs de là que je l'ai tiré. Jean-François.
C'est le brève ou c'est ça va mieux ?
Non, c'est la brève. Nous sommes au brève. Il faut suivre, Jean-François.
J'essaye de suivre, mais c'est tellement brillant.
Oui, c'est vrai.
C'est bref. Hier, à 9h22, les femmes se sont mises à travailler gratuitement.
Oui.
Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était...
Alors que ça aurait pu arriver bien plus avant.
Voilà, alors que c'est plus que l'an dernier, puisque c'est elles qui ont porté en partie la charge du Covid. Voilà. Ce qui veut dire que, question de droit, vous savez que je suis très attaché à la question des droits fondamentaux, c'est pas gagné, notamment du côté des femmes.
Voilà, nous n'avons pas notre complice Léonore pour rebondir là-dessus. C'est une assemblée presque d'hommes aujourd'hui. Pierre, une brève.
Je ne peux pas finir sans dire un mot quand même d'un livre qui vient de sortir.
Ah non, non, nous ne sommes pas au Conseil culturel, Pierre. Nous sommes
mais là, c'est pas au Conseil culturel, j'en ai un par ailleurs. Là, c'est de l'actualité.
D'accord. Je crois qu'il va nous parler de quelqu'un qui est connu.
Soyez bref, Pierre.
Mais qui est dans le top.
C'est une peine. Je serai bref, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'alors que le livre politique ne marche pas, François Hollande est rentré dans le top 10 en 8 jours des ventes. Et qu'instantanément, on ne sait pas pourquoi, il y a une brève dans le Figaro en disant qu'un sondage qui n'a pas le droit d'être publié l'aurait testé à 2%. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens, des journalistes qui arrivent à faire des brèves sur un non-sondage non publié dont on ne connaît pas la méthode sur quelqu'un qui n'est pas candidat. Je me suis dit que finalement, la Macronie n'aimait pas beaucoup les gens qui avaient des lecteurs.
Oui, peut-être. Mais là, M. Hollande va refaire une tournée de signatures, j'imagine. C'est prévu.
Il est en cours,
mais écoutez.
Et les librairies sont pleines pour les signatures.
Et rappelons le titre du livre.
Affronter.
Affronter. Tout un programme.
C'est le cas.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors venons-en à la rubrique « Ça va mieux ». Moi, je vous donne un menu. Huîtres concassées au champagne Charles Heidzeck. Je ne sais pas si je le prononce bien. Saint-Jacques avec un chassagne Montrachet. Homard avec meursault. Je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on va manger à midi. Lièvre à la royale avec un margot. Brie de Meaux avec un côte rôti, c'est pas mal. Hein. Et un Mont Blanc avec un muscat de baume de Venise. Mmh. Donc c'est sympathique, ça va mieux. C'était le menu que n'ont pas mangé les jurés du Goncourt de l'an dernier, puisqu'ils ont fait tout ça par vidéoconférence. Cette année, ils sont revenus chez Drouin, chez qui ils sont depuis, je crois, 1904. Et voyez, ça va mieux parce qu'ils ont quand même réussi à faire un très très beau menu et peut-être aussi un beau Goncourt. Je vais aller me l'acheter tout à l'heure, je vous en dirai plus dans quelques temps. Jean-François.
Ça va mieux, la justice reprend de temps en temps un peu de poil de la bête, notre ancien président de la République, sur l'incitation amicale de l'association Accor, et est allé poser ses culottes, comme on dit, devant les magistrats.
Ses culottes, mais pas son verbe, puisqu'il a refusé
de
parler.
Il a bien entendu refusé de parler, mais je trouve que ça rééquilibre, malgré ce qu'il peut dire sur la séparation des pouvoirs, dont il a une interprétation, pour le coup, extrêmement stricte. On l'a connu plus tolérant. Je trouve que la justice reprend un peu le poil de la bête, surtout quand on sait que M. Dupond-Moretti s'est fait recaler par la Cour de justice de la République sur l'appel qu'il avait fait concernant les prises illégales d'intérêts. Je trouve que c'est quand même un mieux pour la démocratie.
Oui, enfin, les magistrats n'ont jamais trop perdu quand même. Ça va, ça vient, c'est des effets de balancier, mais on sent par moments que ces gens remontent au créneau assez régulièrement.
Les petits pois peuvent tourner allègres.
Oui, allègre, c'est l'homme qui niait le réchauffement climatique, je crois. Pierre ?
Je considère que ma brève est un « ça va mieux ».
Ah oui, oh là là, là il joue facile. Bon, conseil culturel, alors bah, tiens, je commence. Petit livre, pas cher, 7,50 €, pas cher. Claude Mazoric, dans l'excellente édition Au diable Vauvert, 1789, sur la Révolution de France. C'est un avis assez particulier, mais Claude Mazoric est un universitaire, professeur honoraire et disciple d'Albert Sobou, les compagnons de Michel Vauvel, que vous connaissez peut-être, qui sont des historiens. On aurait pu sous-titrer ce livre autrement, « Comment naissent les révolutions ?» Ça peut peut-être... vous intéresser.
Ça m'intéresse.
Et c'est aux excellentes éditions du Diable Vauvert dont je n'irai jamais assez de bien. Pierre, un conseil ?
Un très bon bouquin aussi qui est Fracture. Vraiment une étude psychosociologique sur la jeunesse qui est très intéressante. Et je me permets, puisque chacun fait de la publicité, pour dire que mon roman, Et un jour, il monta les marches jusqu'à demain, sortira dans une quinzaine de jours.
Eh bien, nous en parlerons abondamment et nous procéderons aux signatures.
Nous le lirons avec une attention absolue.
Qu'il se doura. Oui, absolument. Tiens, dans le culturel, je ne vous l'ai pas dit, mais le décès de Nelson Frère, vous en avez entendu parler, grand pianiste brésilien qu'il faut écouter, réécouter sans cesse et sans jamais se lasser. Il y avait de la noblesse et de la simplicité chez cet homme, de la densité sans lourdeur, de la souplesse, de la sensualité, un jeu absolument fabuleux. Que la terre lui soit légère, comme l'on dit.
Oui. Deux conseils culturels. D'abord, la sortie. Alors, on en a beaucoup parlé de Brassens ces derniers temps. Moi, je vais parler d'un autre. La sortie de l'intégrale, le volume 3, l'intégrale de Léo Ferré. 68-77, La solitude. Léo, voilà. Et puis, on est à la presque veille du 11 novembre. Une très bonne BD de Jacques Tardy, qui n'en finit pas de décrire et de revenir sur la guerre de 14-18. Ça s'appelle Le dernier assaut, c'est chez Casterman, avec un magnifique disque de Dominique Grange, que les 68 ans ont bien connu à son époque, qui l'accompagne de Jacques Tardy.
Merci messieurs, vous avez été très bons, nous avons été très bons, allez, il faut le dire quand même, c'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiphaine Lemaine que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité, belle journée à toutes et à tous.